بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفاعه الإسلام ومسي الله تعالى كل لنا possibilité de nous réunir après la salat al-Isha pour apprendre un peu plus de son dîn, de sa religion. On rappelle que depuis quelques mois, on avait commencé à expliquer le hadith de lequel le prophète alayhi salat wa salam énumérait les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, jour de Qiyam, qui auront cet honneur. Cet honneur dans un moment de difficulté, dans les pires moments que connaîtra l'humanité, c'est le jour de la résurrection, le jour des comptes. Un jour, il n'y aura aucune pitié, où même les Anbiya alayhim salat wa salam ne vont penser qu'à eux-mêmes. Ils vont dire cette célèbre phrase qu'on entend dans les hadiths parfois, lorsqu'on leur demandera de l'aide, lorsque les gens solliciteront les prophètes, ils vont dire nafsi, nafsi. À l'exception de la prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aura un souci permanent pour sa umma. Donc, dans ces moments de difficulté, qui sera quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité, Allah Rabbul Izza va honorer cette catégorie de personnes par rapport à leurs bonnes actions de ce dunya. Pas par rapport à leurs origines, pas par rapport à leur rang dans la société, la wallah, c'est par rapport à leurs agissements dans ce monde, les bonnes actions qu'ils avaient accomplies. Et le dernier point sur lequel on s'était attardé, et on va encore s'attarder, inshallah, parce que c'est certainement un des points dans lequel nous péchons le plus et que nous avons besoin énormément de conseils, de nasiha, nous avons besoin de développer notre connaissance à ce propos. C'est lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il énumère les sept catégories de personnes, il dit que parmi eux, il y aura ceux qui s'aiment pour Allah, al-hubbu fillah, les gens qui ont véritablement l'amour, la muhabba de leur cœur, mais un amour qui est sincère, qui est pour Allah azza wa jal. Et on avait donné la définition d'aimer son prochain en Allah. On avait dit que aimer, ça ne se limite pas à des sentiments. C'est pas juste de dire que lui c'est mon frère en islam, ou le fait de le dire, c'est bien au-delà de ça. C'est de faire un pas vers notre prochain. C'est de venir en aide à notre prochain. On avait détaillé également la définition d'aider son prochain chez les pieux prédécesseurs, qui est totalement différente de la nôtre. Ce n'est pas attendre qu'un frère est dans la difficulté pour lui venir en aide. Ce n'est pas attendre que quelqu'un formule la demande pour l'aider. Non, c'est faire en sorte que si on a vu quelqu'un qui est dans une quelconque difficulté, on va essayer de l'aider. On va essayer de l'aider avant même que la personne ne formule la demande. Ça, c'était la première règle. La deuxième règle, faire en sorte que la personne ne sache même pas qui l'a aidé. Et ça, c'est une qualité appréciée par Allah. C'est de la sincérité, celui de l'ikhlas. Et troisièmement, faire en sorte que la personne ne se sente jamais redevable de ce qu'on a fait pour lui. Si à un moment donné, on a aidé quelqu'un, il faut surtout ne pas attendre un retour. Et des fois, on voit des gens qui aident leur prochain pendant longtemps. Et puis, à un moment donné, ils s'arrêtent. Ils disent que oui, mais tout le temps, j'aide. Mais moi, personne ne m'aide. D'accord? Quand moi, j'ai telle difficulté, je n'ai trouvé personne pour m'aider, comme moi, je faisais avec les gens. En fait, là, il y a un problème de compréhension dans les relations avec notre prochain en islam. C'est-à-dire que cette relation, autant notre relation avec Allah doit être basée sur le ikhlas, sur la sincérité, autant notre relation avec notre frère en islam doit être basée sur la sincérité. Ce qu'on fait pour quelqu'un, c'est pour Allah. Ne jamais attendre un retour. Ne jamais attendre même un remerciement ou que la personne agisse de la même façon avec nous un jour. De cette façon, on ne sera jamais déçu. Le fait de ne jamais attendre quoi que ce soit des gens, ça nous garantit de ne jamais être déçu. Donc voici quelques règles qu'on avait vues sur le fait de venir en aide à son prochain. Et si je ne me trompe pas, parce que ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas eu le tawfiq de faire le programme ici, on avait vu également que même parmi les savants, parmi les grands savants, les grands ulama, on a vu l'exemple du professeur, du cheikh l'imam Bukhari, rahimahullah, comment en plus d'enseigner le ilm, d'enseigner la connaissance, il donnait à manger. Il faisait des repas pour les élèves, pour les personnes qui venaient apprendre avec lui. On avait vu l'exemple d'autres grands savants, les noms qui ne me reviennent pas, on avait vu ça avant, qu'après la salat al-Jumu'ah, ils faisaient des assemblées chez eux des assemblées où ils expliquaient, ils parlaient du hadith, ils expliquaient le ilm, mais ils donnaient à manger à ceux qui venaient, ils leur donnaient des hadiyas, des cadeaux, ils les parfumaient. Tout ça, c'est pour rechercher le contentement d'Allah Azza wa Jal, c'est pour développer un muhabba qui se doit d'être sincère. Et si on insiste autant sur l'importance de la sincérité dans nos relations, c'est parce que c'est très souvent un sujet qui n'est pas abordé. Un sujet qui n'est pas abordé, parce que peut-être qu'on ne juge, soit on ne juge pas prioritaire, et qu'on estime que la salat, la lecture du Coran, le dhikrullah, c'est prioritaire, sans le moindre doute. Ce sont des ribadas qui sont importants. Mais n'oublions pas que lorsque le prophète alayhi salat wa salam est arrivé à Madina, la première chose qu'il a fait, c'était la construction de la masjid nabawi. Et la deuxième chose qu'il a fait, c'est le lien de fraternité, qu'on appelle le mot akhat. Le lien de fraternité qui a uni les musulmans de Makkah et les musulmans de Madina. Parce que ça veut dire que pour qu'une umma connaisse le istiqama, le istiqrar, pour qu'une communauté connaisse réellement le bien-être et que les relations soient fondées sur des bases solides, il faut qu'il y ait un muhabba sincère. Un muhabba basé sur la sincérité, uniquement la recherche du contentement d'Allah Azza wa Jal. Et c'est vraiment un point qui nous manque. Vraiment dans notre société, dans la façon qu'on... Nous voyons les relations entre les gens, on parle même au sein de la communauté, parfois même au sein de certaines familles. On se rend compte que s'il y a bien un point sur lequel nous avons beaucoup de retard à rattraper, c'est la véritable muhabba, l'amour sincère. Nous pourrons voir sur une même table des gens qui vont faire leur salat et qui reviennent à table, qu'ils ont fait leur salat premier rang, le premier saf, tout comme il le faut. Mais lorsqu'ils reviennent à table, dans une même famille, lorsqu'on voit les échanges, lorsqu'on voit les échanges de regards, avant même parler de discussion, on voit qu'il y a de la haine, il y a de la rancune, il y a des mauvaises pensées. Ben, tout ça, c'est des choses qui ne doivent pas habiter nos cœurs. Et nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, quelques qualités, là on va aller un peu plus vite, quelques qualités qui doivent être présentes dans notre rapport avec notre frère en islam. Première de ces qualités, as-sukut. Faire en sorte de ne jamais citer les défauts de notre prochain. Ça, c'est une qualité essentielle. Cacher les erreurs de notre prochain. S'il nous arrive de connaître que telle personne ou telle personne a fait un péché, ou que dans son passé, il avait eu un parcours un peu compliqué. D'accord ? Par exemple, on voit un jeune qui vient à la masjid, alhamdoulilah, il est là, il est régulier à la salat, mais on sait qu'avant, c'était on pourrait dire entre guillemets, un coureur du pont. C'était quelqu'un qui était passé par un peu partout, d'accord ? Et les gens de la Jama'a ne savent pas ce passé-là. On n'a pas révélé, on n'a pas dit, oui, bon là, aujourd'hui, il fait la salat, mais il faut savoir qu'avant, il était comme ci, comme ça. Que oui, aujourd'hui, tel monsieur, il vient bien à la salat, il est présent à la masjid, mais avant, il était marié avec un tel, il a fait ça, il a divorcé, il a abandonné sa femme et tout. Il n'y a pas besoin de dire tout ça. Parce que qui te dit que Allah n'a pas déjà pardonné à cette personne ? Si Allah a décidé de pardonner cette personne qui, certes, a péché, a fait des erreurs dans le passé, qui sommes-nous pour ramener sur le tapis des péchés d'une personne qui, certainement, n'existe même pas ? Parce que, mis à part le shirk, Allah Rabbul Izza est capable de pardonner l'intégralité des péchés d'une personne. Même l'adultère, même la consommation du riba de l'intérêt, même les pires des péchés qui peuvent exister, quand quelqu'un est sincère dans son tawbatul nasuha, Allah Azza wa Jal peut pardonner. Mais l'homme, par sa nature, n'oublie pas. On garde rancune. Et on va essayer de coincer notre prochain, au prochain tournant, dès que c'est possible, en rappelant son passé. Ça, c'est quelque chose qui est détestable. Et ça ne doit jamais faire partie de notre comportement. Et quand on analyse, si on faisait un focus sur la façon, sur les règles qui régissent notre société, et les règles qui ont régi la société de Ahlul Madina, entre les Muhajirin et les Ansar, nous allons voir que nous avons deux situations totalement opposées. Autant à notre époque, les gens, ils font, en plus de ne pas citer les défauts, il est même dit, ayyatajahala anhu, faire en sorte que même si on a vu des choses mauvaises chez notre prochain, on fait comme si qu'on n'a pas vu. On fait comme si qu'on n'attire pas l'attention sur les défauts de notre frère en islam. Alors que de nos jours, c'est le contraire. C'est le contraire, on va essayer de connaître qu'est-ce qu'il a fait avant. Quand on voit quelqu'un, on va essayer de connaître son passé, on va essayer de creuser, on va faire un peu, comme on dit, un peu de panchat, on appelle ça en arabe at-tajassus, on va essayer d'espionner la personne pour connaître c'est quoi son fond. Mais qui sommes-nous pour essayer de connaître le fond d'une personne? Quand la personne se prosterne devant Allah, Allah accepte son sejda, c'est amplement suffisant. On n'a pas besoin, nous, de porter un jugement sur notre prochain. Certes, dans certains cas, comme une demande en mariage, ou comme une transaction, quelqu'un veut s'associer avec vous dans un commerce, dans un projet, là on doit poser des questions. Savoir est-ce que dans le passé il n'a pas trompé des gens, est-ce que c'est normal. Mais dans la fréquentation normale, dans la fréquentation commune de la vie de tous les jours, on n'a pas besoin de creuser pour connaître le passé d'une personne, pour connaître s'il a tel défaut en lui. C'est la même chose, c'est ce qu'on a dit, de ne pas chercher à savoir quels sont ses problèmes, quels sont ses défauts, je voulais dire. Il n'y a pas besoin de creuser. Faire en sorte de ne jamais entrer dans des discussions compliquées, de ne pas débattre avec notre frère en islam sur des sujets qui peuvent amener vers des divergences. On peut discuter de tout, mais faire en sorte que les discussions n'entraînent pas une animosité. C'est-à-dire dans les relations, dans les échanges, le fait de parler, faire en sorte de ne jamais frustrer la personne, d'éviter d'aborder des sujets qui peuvent séparer, qui peuvent opposer les personnes. Parmi les qualités du croyant dans sa relation avec son frère en islam, on avait dit en introduction, حفظ أسراره, garder les secrets de son frère. Là, c'était de ne pas dévoiler ses défauts, mais garder ses secrets. Si quelqu'un vous confie un aman, un dépôt, un secret, quelque chose qui lui tient à cœur, on ne doit en aucun cas et sous aucun prétexte révéler le secret que notre frère en islam nous a dévoilé. Ça fait partie du amana, de l'honnêteté du croyant, du musulman. Il y avait un pieux prédécesseur qui en avait demandé, كيف حفظك للسر? Comment est-ce que tu gardes les secrets des gens? Il a dit, asturuhu wa asturu anni asturuhu. Je le cache, je dis à personne, et je fais en sorte que personne ne sache que je cache son secret. C'est pas comme quelqu'un dit, mais il connaît quelque chose, celui, mais il m'a pas le droit de dire. Déjà, tu ouvres une porte. Il connaît un secret sur Bougla, mais si Médiazat, tu ne croiras pas moi. Il est terrible. Vous avez déjà donné 50%. Là. Vous avez fait comprendre qu'il y a quelque chose de mauvais sur cette personne. Ça, c'est pas aman. Donc, quand on connaît quelque chose, c'est vraiment faire en sorte que personne même ne sache qu'on connaît quelque chose de personnel sur la personne. Il y avait une citation, c'est pas quelque chose appliqué. Hein, Abu Sa'id al-Thawri, rahimahullah, dit une parole qui est amusante. Moi, je trouve ça amusant. Il dit, si tu veux avoir un lien de fraternité avec une personne et tu veux tester ses qualités. Il dit, mets-le en colère. Je ne dis pas de le mettre en pratique, hein, mais il dit, c'est un exemple, mets la personne en colère et ensuite essaie de demander aux amis de cette personne, est-ce qu'il a dit du mal sur moi? Est-ce que dans ces moments de colère, dans les moments où on ne parlait plus, il y avait une rancune, est-ce qu'il t'a révélé des choses personnelles que je lui avais confiées? Il dit, فَإِنْ قَالَ خَيْرًا وَكَتَمَ سِرَّكْ فَصْحِبْهُ. Il dit que si, malgré la petite tension qu'il y a eu, la personne n'a jamais dit quelque chose de mauvais sur toi et n'a pas dévoilé tes défauts, sache que c'est quelqu'un de sincère, il mérite d'avoir ton mahabbat, ton amitié. C'est une manière de tester. Bon, je ne suis pas de cet avis, mais ça permet de voir. Et effectivement, quand vous voyez, parfois il y a des gens qui viennent vous raconter des choses. Je me dis, affaires, je bougla, mais dis pas personne. Hein. Déjà, les mal partis. C'est un amanat, il est en train de casser le amanat et tu deviens complice. Quand il commence sa phrase comme ça, tu dis, bye ou achi, si c'est amanat, c'est quelque chose de personnel, je ne veux même pas savoir. Ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est une sagesse qui dit, quand quelqu'un vient te raconter des choses sur une autre personne, sache qu'il dit la même chose à l'autre personne te concernant. Quand il vient te dire que voilà, Ridouane est comme ci, comme ça, sache qu'il va voir l'autre personne et dit, Ibrahim est comme ci, comme ça. C'est quelqu'un qui a une maladie dans son cœur. C'est une maladie, ça. Ça fait partie des maladies intérieures, des maladies du cœur. D'accord? Le fait de ne pas pouvoir garder un amana et de vouloir dévoiler les choses qui sont amana. S'il vient te confier quelque chose qui vient casser un amana d'un frère en islam, te le disant, sache que ce que tu confies à cette personne, de la même façon, il casse le amana, il raconte ça à d'autres personnes. Et maintenant, si la personne le fait dans le but de semer la discorde, c'est ce qu'on appelle an-namima. An-namima, c'est celui qui colporte des nouvelles dans le but de fragiliser les relations de Mahabba. Et ça, il y en a beaucoup dans notre société. Il y en a énormément, malheureusement. Et ça touche toutes les catégories. J'aime pas diviser les gens en catégories de pratique. Allah seul sait l'intérieur des gens. Mais même les gens qui pratiquent la religion, même les gens qu'on dit, entre guillemets, religieux, on dit, ouais, ça c'est ben sincère, pieux, les machins. Ce genre de défaut, on retrouve en eux. Ils écoutent ça, disent, écoutez, tel a dit ça, l'autre fois a dit ça et tout. Et ça crée des tensions. C'est quelque chose qui est haram. Ce qui est amusant, c'est que on va considérer haram le fait d'écouter la musique, le fait de boire l'alcool, le fait de telle chose. Mais quand ça concerne les relations avec notre frère en islam, c'est comme si on considère que ça c'est moins grave. N'oublions jamais que le prophète alayhi salatu wa salam a dit que les choses qui pèseront le plus lourd dans la balance au jour du Qiyamah, c'est al-khuluqul hasan, le bon comportement. Et tout ça, ça fait partie de l'éthique du musulman du bon comportement. Est-ce que on a cru à un moment donné que le bon comportement c'est juste salam, les biens, donne la main, donne deux mains si on peut, sourit, prend nouvelle, c'est que ça? Mais dans ce cas, tout le monde va voir ça de son hisab, de son mizan, de sa balance au jour du Qiyamah. Le akhlaq, c'est pas uniquement ça. Ça va beaucoup plus loin, tout ce qu'on a cité et qu'on va dire encore, ça fait partie du bon comportement du musulman. Tout comme qu'on avait parlé de l'homme dont le cœur est attaché à la masjid, on a dit que c'est pas uniquement faire ces cinq salats à la masjid, c'est un attachement profond, c'est quelqu'un qui est régulier au premier saf et qui donne sa vie pour la masjid. On avait expliqué ça, comment étaient les pieux prédécesseurs de la mosquée. Tout ça nous permet, dans un sens, de revoir un petit peu les bonnes actions, l'ampleur des bonnes actions. Il y a des fois où on simplifie trop les bonnes actions. Alors que c'est ce qu'Allah Rabbul Izzah attend de nous et parfois un peu plus dense, et les sahaba, eux, l'avaient mis en pratique. On avance. Il dit que celui qui agit de cette façon, bon, ça c'est une règle compliquée, on appelle ça at-takhalluq bi akhlaqillah. C'est comme on connaît les sifats, les qualités d'Allah, on essaie de développer des sifats qui seront proches d'Allah, des sifats d'Allah Azza wa Jal. Comme Allah, il est sattarul uyub. Allah cache. Aime cacher les défauts de son serviteur. De la même façon, nous devons essayer de cacher les défauts de notre prochain. Allah est ghaffarul dhunub, celui qui pardonne les péchés. De la même façon, nous devons essayer de pardonner à notre frère en islam. Si Allah est capable de pardonner, vous connaissez les hadiths, l'homme qui a tué 99 personnes, vous connaissez les hadiths qui parlent, hadith Qudsi qui dit si quelqu'un revient vers Allah et qu'il a autant de péchés que les grains de sable dans le désert, l'écume des mers, le nombre de gouttes de pluie, et qu'il est sincère, Allah est capable de lui accorder autant de pardon qu'il avait de péché. Mais nous maintenant, quand quelqu'un nous a fait du tort, et qu'on fait un effort, on dit non, c'est fini. Il n'y a plus rien entre nous, je ne veux plus entendre parler de toi, mais pardonne pas rien. Ça, c'est là que tu développes un péché. Là, tu mets en avant une maladie spirituelle, une maladie de ton cœur, l'incapacité de pardonner à ton prochain. Et là, on enclenche un péché qui est le fait de garder rancune. Alors, l'auteur dit également, il dit, imaginez, il donne un exemple, vous voyez quelqu'un qui est en train de dormir et qu'avec le vent, bon à notre époque c'est plus pareil, avant les gens ils mettaient des izars, comme on dit, enfin pas des izars, comme on dit des longues, d'accord. Donc il dit, si quelqu'un est en train de dormir, on voit ça parfois au hajj, quelqu'un il dort, en bougeant, ce haram il découvre un petit peu au niveau de ses jambes et tout, le satan se découvre. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous le réveillez pour dire, couvre-toi, ou alors, si tu as la possibilité, tu redresses le haram sur lui. Est-ce que quelqu'un serait assez stupide pour le retirer? Il dit que autant il n'y a personne aussi stupide, si vous voyez un monde comme ça, il faut aller coup de pied, il faut aller en dehors de Minam, hein, d'accord? Autant il n'y a personne qui serait aussi bête de faire ça, autant c'est un comportement puéril et stupide qu'une personne qui connaît qu'il a vu le défaut de quelqu'un, il va l'exposer aux gens. C'est aussi bête que vous voyez quelqu'un sur sa table en train de se découvrir, quand il dort, vous allez découvrir sur sa table pour que tout le monde voit. Ça n'a aucun sens. Mais quand vous connaissez que quelqu'un a un défaut caché en lui, essayez de le mettre en avant, informez les gens, même si c'est un groupe d'amis, même si c'est la famille, même, et là parfois on pense qu'il y a des exceptions de ce cas-là, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'iftar, il n'y a pas de fatwa non plus. On pense qu'il y a une exception pour le dimanche midi qu'on mange bidani en famille. On a cru comprendre qu'il y a une fatwa qui autorise le ribat le dimanche midi devant un bidani. Et ça, c'est connu, ça. Rassemblement familial le dimanche midi, autour d'un biliani, là, on refait le monde. Là, il parle du Moulissab, là, il parle de ce qu'il a dit, Bayan, Bouga, dit n'importe quoi, tout le temps, il raconte les mêmes affaires. Là, ça comment? On fait toute la rue Machal Leclerc, un peu, on monte la rue de Joubert, la rue Juette de Dieu, la rue Pasteur, là, on fait ribat de tout le quartier. Ça se passe très souvent comme ça, les repas en famille. En aucun cas, même dans le siècle familial, on n'a pas à parler des défauts d'une personne. Il y a des fois, on se dit que ce qui serait mal, c'est de dire en public. Non, c'est pas que ça, c'est même, tu ne vas pas dire à tes proches non plus. Parce que, il faut pas que les gens sachent que telle personne a tel défaut en lui. Et d'une manière générale, on doit agir avec notre prochain comme on aimerait qu'il agisse envers nous. Maintenant, quand vous avez appris quelque chose, et que là, la langue il gratte parce que tu as envie de le dire. D'accord? Pense une seule seconde que si quelqu'un il connaît quelque chose sur toi et que tu sais qu'à ce moment, il est en train de répéter ça aux gens. Tu es satisfait, tu es pas satisfait. On est très, très en colère. On est très en colère, on ne comprend pas, on dit que ça ne se fait pas. C'est pareil. Agis avec ton prochain comme tu aimerais que les gens agissent envers toi. Il y a un hadith dans lequel le prophète dit « La yu'inu ahadukum hatta yuhibba liyakhihi ma yuhibba li nafsi » Personne n'aura vraiment la foi tant qu'il n'aimera pas pour son frère en islam ce qu'il aime pour lui-même. Ça, ce sont les plus grandes règles d'humanisme. Ça, c'est les plus grandes règles de fraternité, de solidarité. Aimer pour son prochain ce qu'on aime pour nous-mêmes. Et ça ne doit pas se limiter à des thèses. Ça doit être vraiment le mode de vie. C'était ce que le prophète alayhi salatu wa salam mettait en pratique et c'est ce qu'il avait enseigné aux sahaba. Hada. Et en rapport avec ça, l'auteur il cite le tafsir de Wailul al-Mutaffifin. Ça, c'est un tafsir qui n'est pas très connu. Dans Wailul al-Mutaffifin, très souvent, quand on lit ce verset, الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Très souvent, lorsqu'on lit la traduction, on pense que ce verset concerne uniquement les gens qui trichent dans les poids et les mesures. Mise en garde contre Wailul al-Mutaffifin, j'ai pas la traduction officielle, mais malheur aux tricheurs. Et très souvent, on pense que c'est tricher dans les transactions. Mais les Mufassirin, rahimahumullah, et l'ensemble des commentateurs du Coran disent que cela va au-delà du fait de tricher dans les transactions, dans les poids et les mesures. C'est également le tafsir magnifique, kullu man yaltamisu min al-insaf, on va dire en français que quand on attend un comportement de la part de notre prochain envers nous, et que nous n'agissons pas de la même façon à son égard, tu fais partie des tricheurs. Fais partie des tricheurs, celui qui veut que les gens agissent de façon correcte avec lui, que vous soyez honnête avec moi, sincère, avec muhabba, respectueux, et que moi je n'agis pas de la même façon avec mon frère en islam, je fais partie de al-mutaffifin. Je fais partie des gens qui sont injustes. C'est pas uniquement des transactions, c'est également des sentiments. J'attends certaines réactions de la part des gens, certains sentiments, certaines façons d'agir, mais moi je ne vais pas agir de la même façon avec eux. C'est un comportement paradoxal, d'accord? Et ça fait partie des tricheurs cités dans le verset Wailul lil mutaffifin. On va avancer un petit peu, inshallah. Alors, parmi les qualités du croyant dans sa relation sincère avec son frère en islam, c'est le fait de dire à la personne. Et ça ne fait pas partie vraiment de nos habitudes, peut-être même par rapport à nos habitudes linguistiques, la langue française, ça ne se fait pas. C'est de dire à son frère en islam que « Ya akhi, uhibbuka fillah ». Faire savoir à notre prochain que « Je t'aime pour Allah ». Vous savez qu'en français, ça ne passe pas, mais en arabe, ça se dit couramment. J'écrivais un courrier à une personne encore après-midi. La première chose que je dis, que « Sache, ya akhi, que je t'aime en Allah », c'est quelque chose de courant en langue arabe. Il est important de rappeler à notre frère en islam que j'ai du muhabba pour toi. Alors, si on ne dit pas que je t'aime en Allah, peut-être quand on dit je t'aime, le bouc va être choqué du quoi il veut, là. D'accord? Surtout à notre époque, ça fait un peu bizarre. Mais on trouve une autre formule. On va dire à la personne, Ridwan ou Akhtar ou Mohamed, j'ai beaucoup de muhabba pour toi. Je pense que ça passe. Quelqu'un, il vient, il met la main sur l'épaule, il dit, j'ai beaucoup de muhabba, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Comme disent certains acteurs, ça ne mange pas de pain, hein. Mais c'est quelque chose qui touche les cœurs. Et c'est une sunna de le dire. Il est sunna. Le prophète dit, « Idha ahabba ahadukum akhahu fal » Le prophète dit, si un musulman aime son frère en islam, il doit le dire. Il doit faire i'lan, il doit dire que, « Oh mon frère, je t'aime pour Allah, j'ai de la muhabba, de l'amitié pour toi. » فَإِنَّهُ أَبْقَى فِي الْأُلْفَ C'est quelque chose qui va renforcer encore plus le muhabba. وَأَثْبَتُ فِي الْمَوَدَّةِ C'est à peu près le même sens. Ça va consolider les liens de fraternité. Deuxièmement, quand on interpelle la personne, on doit l'appeler par le nom qui le plaît. Et ne jamais utiliser des surnoms qui vont vexer la personne. Il y a des fois où on donne un petit nom à une personne, mais on se rend pas compte que ça vexe la personne. Faire en sorte que lorsqu'on appelle, on appelle par un nom qui le plaît. Donc ça n'a pas besoin de développer énormément, on a compris. Également, de temps en temps, rappeler à la personne ses qualités. Quand tu dis que j'ai beaucoup de mahabbat pour toi, dis que, alhamdulillah, je suis content de t'avoir comme ami, tu es quelqu'un de bien, mashallah, tu es toujours là à la salat, tu as un bon comportement, tes paroles sont sages et tout. Rappelez à la personne quelques mahasin, quelques-uns de ses qualités, ça fait partie des choses qui renforcent le muhabba. Être toujours reconnaissant, ne jamais oublier de remercier notre prochain s'il nous a aidé. Jusqu'à là, on n'apprend rien de nouveau, mais ça va au-delà de ça. Bal ala niyati. Si quelqu'un avait l'intention de nous aider, mais il n'a pas pu le faire, on doit le remercier. Il dit que je te remercie pour husnul niyya, pour ton intention, l'intention que tu avais de m'aider. Ali radiallahu anhu dit une parole qui est belle là-dessus. Il dit, man lam yahmad akhahu ala husnul niyya, lam yahmidhu ala husnul sani'a. Si on n'arrive pas à remercier une personne pour sa bonne intention, on n'arrivera pas vraiment à remercier la personne quand il va nous aider, il va faire quelque chose de bien pour nous. On passe maintenant à un point essentiel, et ça, j'ai rarement vu des gens qui ont cette qualité, rarement vu, même parmi, d'accord, al-mudafa'a anil akh fi raybati, prendre la défense de son frère en islam, en son absence. Vous êtes dans une assemblée, d'accord, on va prendre l'exemple d'Arta, d'accord, vous êtes dans une assemblée, les gens commencent à faire ribat sur notre frère Mohamed Arta, il dit, ouais, il lit comme ci, il est comme ça, il est de mon devoir. Ça fait partie du amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ça, c'est un nahy anil munkar. On interdit le mal. D'accord? Interdit le mal, c'est pas uniquement quand quelqu'un il boit l'alcool, il est en train de faire quelque chose. Non. Tu vois dans l'assemblée, tu vois quelle tendance ça prend l'assemblée. C'est en train de virer vers le ribat, vers la médisance. Et on est en train de parler d'Artar, de Mohamed. On dit tout de suite à la personne, non, je suis pas d'accord. On n'a pas le droit de parler de lui. C'est quelqu'un de bien. Ça, c'est mon ami, il est hafid al-Qur'an, il a telle qualité. En aucun cas, vous pouvez dire de telles choses sur lui. Al-Mudafa'a, prendre la défense de son frère en islam. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam dit, « Man radda an ardi akhihi, radda Allahu an wajhihi an-nar yawm al-qiyamah. » Celui qui prend la défense de son frère en islam, le jour de Qiyamah, Allah Rabbul Izza détournera son visage du feu de l'enfer. C'est pas une action extraordinaire. Mais en même temps, cette réaction, c'est plus une réaction qu'une action. Cette réaction ferme la porte à la médisance. Et dans combien, moi, j'en connais, qui dans des assemblées, il commence à faire ribat, même s'il ne participe pas, mais il écoute. Il ne va pas dire rien, moi. C'est banal à cause, il ne va pas dire rien. Le simple fait d'être là et de rester silencieux, c'est cautionner ce qu'ils sont en train de dire. Tu partages le même péché qu'eux. Le ribat est partagé entre chaque personne qui est dans l'assemblée. Il y a deux solutions. Soit tu te lèves, tu quittes l'assemblée, mais la réaction la plus noble, c'est de les empêcher, d'empêcher les gens de continuer à faire le ribat. Et ça, je vous assure, c'est quelque chose qui est quasiment inexistant. Et ça, c'est une preuve de sincérité de le muhabba. Pas en sa présence, on prend sa défense. Quand la personne est absente et qu'on parle de lui en mal, on prend sa défense. Et un hadith qui est un peu plus général, le prophète alayhi salatu wa salam dit, lorsqu'une personne, le hadith est un peu long, lorsqu'une personne humilie ou rabaisse son frère en islam, cette personne a la garantie, illa khadhalahu Allahu ta'ala fi mawtinin yuhibbu fihi nusrata. Allah Rabbul Izzah va l'humilier, va le rabaisser dans une situation où il aura besoin de l'aide d'Allah. Celui qui n'hésite pas à écraser son frère en islam, à citer ses défauts, à l'humilier, à lui porter atteinte à sa dignité devant les gens, que la personne sache que viendra un moment où il aura besoin de l'aide d'Allah, et dans cette situation-là, Allah va le rabaisser, va l'humilier. Comme tu agis, on agira avec toi. Et le contraire maintenant, c'est là que c'est intéressant. وَمَا مِنَ حَدٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا. Et lorsqu'une personne aide son frère en islam, alors qu'il y a des gens qui essaient de l'opprimer, et la personne lui vient en aide, إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصَرَتَهُ. Allah Azza wa Jal fait la promesse de lui venir en aide dans une situation où il aura grandement besoin de l'aide d'Allah. Il y a des moments de notre vie où on est dans des grands taklifs, dans des grandes difficultés, où on voit que personne ne peut nous aider. Et là, le musulman, le mu'min s'oriente vers Allah, dit « Allah, mais dans une telle situation, j'ai besoin de ton aide. » Ça, c'est une garantie d'acceptation de dua dans les moments de difficulté. C'est de venir en aide à son prochain quand il est en difficulté. Et si on ne veut pas qu'Allah nous abandonne dans les situations où on a grandement besoin de lui, qu'on fasse attention de ne jamais écraser notre frère en islam. Et ça, c'est un point essentiel à retenir. Et ça, c'est une des conséquences directes du riba, du buhtan. Qu'on va demander l'aide à Allah Azza wa Jalla à des situations où on a besoin. Ici, le Prophète prend soin de préciser, fi mawtunin yuhibbu fihi nusrata, dans une situation où il aura besoin de l'aide, c'est vraiment une situation périlleuse. Et là, il n'aura pas l'aide d'Allah. Parce que dans cette situation, il a écrasé son frère en islam. Donc, si on fait cette intention de ne jamais parler en mal de notre frère, de ne jamais faire du mal à notre prochain en islam, de prendre sa défense lorsqu'on essaie de l'opprimer, on a cette garantie qu'un jour, si on est dans une situation périlleuse, une situation de difficulté, Allah Azza wa Jalla nous viendra en aide immédiatement lorsqu'on lui demandera son aide. Vous voyez là, subhanallah, si on améliore notre relation avec les gens, on améliore notre vie de ce dunya et de l'akhirah. Il y a énormément d'avantages, il y a énormément de choses à gagner. Encore 5 minutes, Inch'Allah. 30 minutes, encore 5, fait 35 minutes maximum. وَمِنْ حَقِّ الْأَخِي. Parmi les droits de notre frère en islam, ne jamais lever la voix avec notre frère en islam. Qu'Allah nous pardonne si on l'a fait. Et des fois qu'on parle avec quelqu'un, on s'énerve un peu, on commence à crier. Faut pas le faire. Ça c'est quelque chose qui va toucher la personne, qui va le vexer, qui va l'attrister, et ça c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais il y a des fois où même, surtout dans les conversations entre les membres d'une même famille, quand on parle de quelque chose, et on élève la voix, même si après on redevient ami, mais il y a des choses qui se cassent dans le cœur. Il ne faut jamais lever la voix avec un frère en islam. Maintenant, quand on parle des relations avec notre frère en islam, on comprend que lorsqu'on parle de la famille, qu'on parle des parents, c'est un autre degré encore, bien sûr. Okay? Donc, pour la maman, on ne doit pas dire « ouf ». Maintenant, pour un frère en islam, il n'a pas été dit qu'on ne dit pas ouf. Mais le prophète nous a montré que quand il avait, si je ne me trompe pas, Anas bin Malik qui était à son service pendant 10 ans, le prophète ne lui a jamais fait de reproche. Jamais demandé pourquoi tu as fait ça, ni pourquoi tu n'as pas fait ça. Ça, c'était l'exemple appliqué de 10 années de relation entre Anas et notre prophète. Ça nous donne des pistes. Comment on doit agir avec notre prochain. Donc, ne jamais lever la voix avec notre frère en islam. Un élément, j'étais masjid en ville, une personne très bien, quelqu'un très correct, tranquille, va tout à l'heure crier avec quelqu'un. J'ai dit, mais c'est quoi? J'ai jamais entendu la personne lever la voix. En fait, quelqu'un avait pris ses serviettes pour aller aux toilettes. Il y avait de l'agaçant, ça arrive. Hein. Encore ici, toilette, là, ici, mais le masjid en ville, il faut être sur le sous-sol. Il y a des gens, ils sont aux toilettes, après, je ne sais pas quoi ils font, le serviette, il reste en bas, il peut rentrer, puis nous, de casse. Donc voilà. La personne donne rod, il cherche ses chaussures, sa savate, et il voit quelqu'un qui remonte tranquillement avec sa savate. Il a crié dessus, il dit oui, ça se fait pas, ça se fait pas. Ajib, c'était comme si il avait accompli un péché capital. Mais c'est vrai que là, la personne est de son droit, parce qu'il a été, à un certain sens, opprimé, hein, quoique ce n'est pas quelque chose d'énorme. Mais même dans des cas où on est dans notre droit, ne jamais lever la voix avec le frère en islam. Si on peut essayer d'appliquer ça, on résout beaucoup de problèmes et on évite beaucoup de situations de conflit. On lève jamais la voix. Kalam dan tawfiq, quand même, on promet de le faire. Parce qu'à des fois, on est emporté, on reste des êtres humains. On reste des insans. Quand on est emporté, quand la colère commence à monter, mais des fois, on lève la voix. Il y a des fois, on lève la voix et on ne se rend pas compte qu'on lève la voix. Après, le monde dit, mais pourquoi vous criez? Je dis, mais crie pas, moi! Mikoz! Mais quand on dit ou cause, même, le mot mikoz, même la fille en Mali. Je suis en train de parler, je m'exprime. On fait en sorte de garder une tonalité qui ne vexe. Vous voyez comment, dans le dîn, on prend vraiment précaution. Comme si que le queue de ton frère en islam, c'est en cristal. Lève pas la voix, ne l'ébrèche pas. Respecte ton frère en islam. Hada. Dernier point. Ça, c'est une question que je vous pose. Si vous constatez que un de vos amis commence à développer un péché qu'il ne faisait pas avant. Un ami, de collège, lycée, ou je ne sais pas quoi, des années, on est ensemble, et la personne commence à faire le zina. Il a connu une fille, il rentre dans ce péché. Ou comment il commence à consommer de l'alcool. Vous faites quoi? Est-ce qu'on se dit que on n'a pas le droit de fréquenter quelqu'un dans le péché, donc on s'éloigne de lui? Parce que ça rejoint un petit peu al-hubbu fillah ou al-bughdhu fillah. Ça fait partie des qualités qu'on doit développer. Aimer pour Allah, mais s'éloigner d'une personne pour Allah également. Ou alors on se dit que non, on doit essayer de rester avec la personne, garder muhabba. On va essayer de faire en sorte qu'on soit aussi, encore plus proche de lui pour essayer de l'aider à s'en sortir. Solution A ou solution B? Solution B, tout Tout le monde est d'accord? Il y a l'avis de certains savants, et certains sahaba, comme Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu, et parce qu'ils vont dans ce sens que ça fait partie des devoirs du croyant que de se séparer de celui qui va dans le mauvais chemin. Dans le but de tarbiya, d'une éducation, pour que la personne comprenne que ce péché-là est inacceptable en tant que musulman, donc tant que tu gardes ça, je ne te fréquente pas. Et il y a des dalils quand même. Lorsque les trois sahabas n'avaient pas participé à la bataille de Tabouk, le prophète avait reçu l'ordre de ne plus adresser la parole à ces gens-là. Tarbiya, c'était une éducation, pour qu'ils comprennent que leur agissement était vraiment détestable. Ils n'auraient pas dû faire comme ça. Et c'est... le masla existe. Les deux cas sont acceptables, les deux réactions. Mais d'autres savants, et d'autres sahaba, Abu Darda, radiallahu anhu, et Jama'a min as-sahaba, quantité de compagnons, et des contemporains également, ils sont d'avis que si on constate que notre prochain, notre frère en islam, connaît un moment difficile sur le plan spirituel, c'est pas le moment de le lâcher. Parce que peut-être qu'on est la seule personne qui l'écoute. C'est peut-être qu'on est la seule personne en qui il a confiance. Et si il va vers ce péché parce qu'il traverse un moment difficile de sa vie, et que même il perd ses soutiens, ses amis, mais il va sombrer. Il va sombrer. C'est-à-dire que c'est dans ce moment-là qu'il a le plus besoin de nous. Et ils font une comparaison. Si vous savez que quelqu'un est malade, d'accord, Allah les protège, tout d'un coup, il a quelqu'un a un cancer. Est-ce que tu dis, il a un cancer, mais il ne peut être lui? Non. Au contraire, là, il aura besoin d'aide. Peut-être qu'on le dépose à l'hôpital, qu'on prépare à manger. Il a plus besoin qu'on lui vienne en aide. Ce n'est pas le moment de le lâcher. Et moralement aussi, il a besoin de soutien. Ce serait ingrat et incohérent de le lâcher. Dit que quand quelqu'un est dans le péché, c'est qu'il a été attrapé par le diable. C'est Shaitan qui l'a eu. Shaitan l'a eu d'une façon qu'il n'avait pas réussi avant. Peut-être que Shaitan avait essayé de le faire sombrer dans le péché, de le zina ou de l'alcool avant, il n'a pas réussi. Mais là, Shaitan a guetté un moment de faiblesse, il l'a eu. Qu'Allah nous protège. Mais dans ce moment-là, notre frère en islam a le plus besoin de nos conseils, de notre soutien. Parce que ad-din an-nasiha. L'islam, c'est ça, c'est le bon conseil. C'est dire des paroles qui sont correctes à notre prochain, qui vont l'aider dans son dîn et dans son dunya. Maintenant, et on va conclure avec ça, comment conseiller notre frère en islam? Ça, c'est un masla qu'il développe, ce qui est pas mal, mais bon, on ne va pas rentrer dans trop de détails, sinon on ne terminera jamais. Il dit que, je vais juste essayer de trouver la citation qui était pas mal du tout. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà, on avait donc sauté deux pages. Je ne le retrouve pas. Il dit que donner conseil, lorsqu'on donne un conseil à une personne, on doit toujours le faire en privé. Jamais devant les gens. Hadji, ben, la citation était belle, et là je ne le retrouve pas. Il dit que donner conseil en public, c'est humilier la personne. Mais si on est sincère, parce que si on parle à une personne, on dit écoute, il faudrait faire ça, il faudrait arrêter telle chose, ben en fait, on est en train d'humilier la personne, on est en train de dévoiler son défaut, son péché devant les gens. Il dit que si on est sincère dans notre volonté d'apporter quelque chose à notre frère en islam, on doit le faire en amana, de façon, telle façon que personne n'entende, en privé. Alors que celui qui le fait en public, c'est quelqu'un qui est en train de causer préjudice, en train d'humilier la personne. Ah, ben. Je pense que c'est pas mal. On terminera avec une petite note spirituelle, parce que là, ça reste souvent des conseils, des leçons de sagesse qui font partie des comportements. Mais on va terminer avec quelques hadiths et un point qu'on peut mettre en pratique tout de suite. Tout de suite, immédiatement, faire doa pour son frère en islam. Un ami sincère, c'est une personne qui fait doa pour vous. Qui fait doa pour vous quand vous ne le savez pas. Pas qu'il fait doa pour vous à voix haute. Non, c'est qu'il est tellement sincère de son muhabba qu'à chaque fois qu'il fait la salah, à chaque fois qu'il fait doa, il pense à son frère, à telle personne, et il fait doa qu'Allah Azza wa Jal vienne en aide à telle personne par rapport à sa situation, par rapport à ses difficultés. D'une manière générale, le prophète me dit une parole qui est tellement belle et qu'on peut mettre en pratique rapidement, et qui nous apportera énormément de récompenses. Hadith. Donc, le Prophète dit Man istaghfara lil mu'minina wa lil mu'minat, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasana. Ça, c'est ajib. Ça nous montre la générosité d'Allah. Celui qui demande doit. Oh Allah, pardonne les mu'minina wal mu'minat. Des doigts qu'on connaît, même si on le dit en français. Oh Allah, accorde donc pardon à tous les croyants, à tous les croyantes. Ya Allah, viens en aide à tous les frères en islam, à tous nos frères et sœurs en islam. Kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin, pardon, hasana. Allah lui accorde une hasana, une récompense pour tous les croyants et toutes les croyantes. Vous croyez que le trésor d'Allah est limité? Abadan, le trésor d'Allah est illimité. Vous croyez que la bonté d'Allah est limitée? Vous croyez qu'il attend des prouesses spirituelles pour nous donner beaucoup de choses? Là, wallah. Ce genre de réaction, c'est quelque chose qui sera sincère, parce que ça vient du cœur et ça se fait en secret. Demandez tauba et istighfar pour nos frères et sœurs en islam, Allah t'accorde un hasana. Vous dites un, oui, mais un, mais sur la tête de chaque mu'min, chaque mu'mina. Pour chaque individu, tu as une récompense. Regardez comment Allah est généreux. Ça, c'est hadith authentique, ça. Ce sont des hasanats qu'on peut obtenir, mes chers frères, en islam, facilement, rapidement, régulièrement, plusieurs fois par jour. On fait l'intention de le faire, Inch'Allah. Maintenant, on va plus loin. Le prochain samedi. Dua ul akhi li akhihi bi dhahri al ghaib, ça s'appelle comme ça. La yurad. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hadith authentique également, hadith sahih, Sahih al-Bani. Quand on demande doua pour notre frère en islam, ce doua est accepté par Allah. C'est un doua qui n'est pas rejeté. C'est que si je vais demander doua pour quelqu'un, ce doua que je formule pour mon prochain, c'est un doua qui ne sera pas rejeté par Allah. C'est un doua qui a garantie de qaboul. Mais ça, c'est quelque chose de magnifique, ça. Quand on connaît que quelqu'un a des difficultés, le doua que je fais à distance, c'est un doua qui sera, Inch'Allah, accepté par Allah. Et puis Allah seul sait comment est-ce qu'il accepte les doigts. Encore un hadith. Doua ul mar'i. Lorsqu'un musulman demande doua pour son frère en islam, kullama da'a li akhi bi khayrin, qala al malak, amin wa laka bi mithli dhalik. Pour chaque doua, l'ange dit amin. Et qu'Allah t'accorde l'équivalent de ce doigt. La même chose pour toi. Donc, oh Allah, accorde-lui muhabba de son couple. L'ange va dire Amin, wa laka bi mithli dhalik. Toi aussi, Allah t'accorde la même chose. Oh Allah, accorde la santé à son enfant qui est malade. L'ange, on n'entend pas bien sûr, mais l'ange dit Amin. On doit avoir iman yaqin de ses convictions. Ça, c'est hadith de le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam muslim rapporté par Muslim Ahmed. On a convaincu que l'ange va dire Amin et qu'Allah t'accorde la même chose. Ce que tu demandes pour ton frère, Allah va exaucer, mais Allah t'accorde également la même chose. Vous voyez comment on est gagnant. Quand on fait doua pour notre frère en islam, ce doua est accepté. On a des hasanats pour chaque croyant et en plus, on a l'acceptation de l'équivalent de ce doua. Tout ça, ça nous montre comment, quand le cœur est pur, quand est-ce que tu fais doua pour ton frère en islam? Quand tu l'aimes sincèrement. Le monde gardé de travers, au fait, salam, mana, ou, ben, il m'a dit, mana, d'accord, moi, ça va, ou un tel camarade, est bien, famille est bien, et tout, mais par des autres, il dit, il sent pas lui, ou gardé de travers, comme ça. Est-ce que tu vas faire doua pour lui? Non, tu feras pas doua pour lui. Salam, on va faire. Parce que ça ne se fait pas de ne pas faire salam quand on rencontre quelqu'un. Mais doua, on ne fait pas, on fait doua pour une personne à partir du moment où on l'aime sincèrement. En général, qui fait doua pour qui? Le papa fait doua pour son enfant. La maman fait doua pour son enfant. De l'autre sens, pas trop. Quand les enfants sont jeunes, ils ne comprennent pas l'importance de doua, ils ne comprennent pas l'importance de demander à Allah la santé pour leurs parents, de la vieillesse, on comprend. Mais quand après les enfants ils grandissent, ils deviennent eux-mêmes parents lorsqu'ils voient les parents très âgés, c'est là qu'ils vont demander doua. J'ai vu, je donne une note qui tape ça, que parmi les qualités d'un enfant, le huquq al-walidain, le respect des parents, c'est de demander au moins 5 fois par jour doua pour ses parents. Au moins 5 fois par jour. Autrement, c'est un fils ingrat. Au moins 5 fois dire Rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Comme ils ont eu raham pour moi quand j'étais jeune, Wallah ait pitié pour eux. Au moins 5 fois par jour. Faisons le niya, ceux qui ont des parents encore vivants. Après chaque salat qu'on fait doua, on fait doua pour nos parents. Et s'ils sont décédés, on fait doua pour les défunts, les parents. Ça, c'est essentiel. C'est impensable. Excuse-moi de le dire avec des mots si crus. Il est impensable qu'un fils ou qu'une fille, qu'un enfant qui a des parents vivants, 24 heures, il passe sans qu'il fait un doigt pour son papa à ce moment. C'est pas possible. Et là, je parle même pas d'aller les voir, rendre visite, ridmat et tout. Le doigt, ça c'est capital. Il faut le faire. Donc, faire doua pour notre frère en islam, c'est quelque chose qui nous sera profitable. On aura des récompenses, on aura l'acceptation de ce doua et l'équivalence de ces doua pour nous, qu'Allah nous accepte d'un tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Terminons avec Abu Darda, radiallahu anhu, qui dit « Inni la ad'u li sab'ina min ikhwani fi sujoudi » Usammihim bi asma'ihim. Dit que je jure que je fais doua tous les jours en sejda pour 70 personnes, pour 70 de mes frères en islam, et je donne le nom, je prends le nom. Des fois, quand quelqu'un sort Umra, il vient dire, vous l'avez fait doua pour moi? Elle dit, bien sûr. Vous avez dit, il a fait doua pour toute la Umma, tu vois, aussi, tu fais partie. Mais quelqu'un s'apprend, non, mais il a le temps, moi, tu on fait pas, il faut donner le nom de la personne. Oh Allah, accorde la santé à Ibrahim, à Ishaq, à Yaqub, qu'il puisse se marier. Citez le nom et demandez, faites la demande pour lui. Ça, c'est sincérité. Ça fait partie des qualités du croyant. Donc, on va terminer avec Abu Darda. 70 personnes. Il cite le nom de 70 personnes de Sejda. Imagine la longueur de ce Sejda déjà. Imagine les autres doua qu'il fait en général et ensuite les doua qu'il fait pour ses frères en islam. Qu'Allah t'a donné de comprendre. C'est quelques paroles, c'est pas simple hein, à mettre tout ça en pratique. Hein. C'est contre nature. Pourquoi c'est contre nature? Parce que nous vivons dans une société où les gens se renferment sur eux-mêmes. Les gens sont renfermés. Les gens, ils travaillent, sont fatigués. Quand ils rentrent du travail, ils rentrent chez eux, ils veulent manger. Et dans le trajet travail jusqu'à la maison, ils ne veulent pas voir personne. Maïpa pose pas question, mon tête est fatigué. Mon coco finit de chauffer. Ils rentrent à casa, ils veulent manger. Et quand il finit de manger, si c'est mashallah, il a eu de bonnes habitudes, il a fait namaz isha. Et quand il vient namaz, jusqu'à le retour à sa maison, il ne veut voir personne. Et quand il arrive chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder sa télé, son Koh-Lanta, son chef pâtissier de la semaine, son France-Suède et tout. Ça, c'est plus important que n'importe quelle relation avec son frère en islam. On vit dans une société individualiste. On se renferme sur nous-mêmes. Et quand on connaît que quelqu'un a un problème, c'est comme si qu'il ne nous connaît pas. Parce que ça commence, Ed Ali, Magadj. Ou ça rend des engrenages, faudra prendre son nouvel, faudra amener Ali là, faudra faire ci, faudra faire ça. Mais Yahri, c'est là-dedans que tu es notre Jannah. C'est comme ça que tu es au paradis. C'est là-dedans peut-être qu'Allah t'accorde le Jannah, parce que le prophète m'a dit irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ayez le raham, ayez de la pitié, la compassion pour les gens de la terre, c'est-à-dire pour les êtres humains, pour les gens, ceux qui sont dans les cieux auront de la compassion pour vous. Ça c'est la clé pour avoir le pardon, le maghfirah d'Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah nous accorde à toutes ces qualités. Inch'Allah, on va essayer d'être régulier. On reprend, c'était les vacances, et puis il y a des réunions le mardi. C'est difficile. Mais Inch'Allah, on essaie d'être régulier tous les deux mardis, Inch'Allah. On va essayer de trouver aussi un collègue qui est capable aussi de prendre le relais. Au moins, on continue les majlis. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.